Elle a donné vie à Lazare et Cécile, à Marivonne, à la Violette, à Violette et à la petite Josette. Dans son monde, il y avait aussi une fusée, une maison pleine de fenêtres, un bonhomme bleu marine et des sandwichs au jambon. Anne Sylvestre a chanté des histoires aux grands et aux petits pendant 60 ans. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. En tant qu'écrivain, vous partagez avec Anne Sylvestre l'amour des mots, on va en parler dans un instant, mais elle était surtout votre amie. Depuis hier midi, vous écoutez ses chansons en boucle ?
Oui, je l'écoute. Ce que je voudrais dire, avant de parler un petit peu de mon histoire personnelle avec Anne, c'est que en fait, voilà, je suis traversé à la fois par un immense chagrin de cette chanteuse qui a habité toute ma vie et que j'ai toujours considérée comme la plus grande. Et puis aussi une forme de colère, parce que malheureusement, c'était un petit peu trop prévisible, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup réduite à un aspect un peu bicéphale. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la chanteuse pour enfants et de la féministe. Alors certes, c'est une grande féministe, et certes, elle a chanté pour les enfants, mais c'est surtout une très très grande écrivaine de chansons. C'est pour moi la plus grande par l'ampleur de son œuvre, par la qualité à la fois poétique et par son attachement aussi à la modernité, à parler de toute son époque. Voilà, je voulais dire ça d'abord en préambule.
Et de toute façon, on va y revenir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tenait à vous inviter, vous justement, parce que voilà, vous aussi, les mots comptent pour vous, les mots comptaient énormément pour elle, hein, en concert. Je me souviens une fois qu'elle avait raconté qu'elle adorait se plonger dans les dictionnaires, découvrir des nouveaux mots. Elle avait fait une chanson notamment avec un mot qui lui avait apparu comme ça, impedimenta. Ça, c'est quelque chose que vous partagiez tous les deux?
Oui, c'est une chose qu'on partageait et j'ai eu cette chance et cet honneur de pouvoir lui proposer d'écrire un livre sur les mots, tout à fait à la fin de sa vie.
Il y a deux ans, oui.
Et donc, ce livre, Coquelicot, c'est un livre magnifique donc, qu'elle a écrit sur ses mots et sur les mots de toute son existence et qui lui a permis aussi de se réconcilier un petit peu avec certains aspects de son enfance qui étaient parfois un petit peu douloureuses pour elle. Et donc, ça, c'est vrai que c'était... un peu magnifique de pouvoir écrire ce livre à 80 ans. Et alors, bon, parfois on plaisantait en disant, voilà, premier livre à 80 ans, mais c'était pas un premier livre. Toute son œuvre est un livre immense, voilà, d'une poésie incroyable. Et ça, j'en étais le témoin sur le terrain, si je peux dire, puisque professeur toute ma vie, j'étudiais chaque semaine un texte de chanson en classe. Et donc, il se trouve que les textes d'Anne, c'était toujours ceux qui tenaient le mieux le coup à l'explication de texte. Avec curieusement d'ailleurs ceux d'Alain Souchon, dans un registre assez différent. Mais ceux d'Anne, c'est vrai, étaient d'une qualité telle qu'à la fin de l'heure, on n'avait jamais fini de dire tout ce qu'on pouvait dire, à la fois par la richesse des thèmes et surtout par la façon de dire. Je trouve que c'est, voilà, je dis colère tout à l'heure. C'est vrai, il y a un petit peu de colère parce qu'elle n'a pas parlé que d'un aspect de la vie. Elle a parlé de tous les aspects. Elle a parlé de l'amour, de la mort, de tout aussi les détails de notre siècle, de l'avancement du temps. Je trouve ça quand même assez injuste de l'avoir parfois un petit peu réduite. Alors, par ailleurs, ma rencontre avec Anne, c'était un truc assez étonnant, puisque ça s'est fait vraiment par le hasard. Il se trouve que je suis devenu son ami et Martine m'accompagne aussi. Au fil du temps, nous n'étions pas vraiment des groupies. Je pense pas qu'Anne, d'ailleurs, était quelqu'un qui pouvait avoir des groupies. Simplement,
mais elle avait un public extrêmement fidèle, hein.
Oui, un public extrêmement fidèle, avec toujours un rapport quand même de respect aussi, d'admiration, mais à la fois de tendresse et d'un peu de distance, parce que sa façon d'être et la qualité de son expression appelaient aussi un certain respect, je crois. Et donc, il se trouve que moi, quand j'avais 15 ans, je me suis acheté une guitare pour pouvoir chanter, pour plaire aux filles. La première chanson que j'ai apprise, c'était Lazare et Cécile, dont vous parliez tout à l'heure.
Une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour.
Voilà, il y avait c'était le côté éternité poétique qu'il y a dans les chansons d'Anne. Et il y a aussi, à côté de cette éternité poétique, il y a aussi le souci du siècle, la façon de parler de tous les sujets qui nous touchent. Et il se trouve que, bon, quand j'ai rencontré la femme de ma vie, 4 ans après, à la faculté de Nanterre, dans la première discussion que nous avons eue, je pense que nous sommes beaucoup rapprochés parce que nous avons parlé d'Anne Sylvestre. Ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai déclaré ma flamme à Martine, qui est donc restée ma compagne jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé une phrase d'une chanson d'Anne.
Laquelle ?
C'est une chanson qui est un peu vacharde et drôle, qui s'appelle Un cœur sur les bras, qui commence par « Un jour étant à court de fleurs, tu m'as comme ça offert ton cœur ». Dans un papier sulfurisé avec une étiquette. Donc voilà, c'était une façon de parler de l'amour de façon un peu drôle. Ça commençait par « Un jour étant à court de fleurs ». Et j'ai simplement dit à Martine « Je suis à court de fleurs ». Et en fait, j'ai un peu joué ma vie sur cette petite expression-là.
Et ça a marché. Et elle a succombé.
Oui, elle était très très compatible en langage 6S, et donc elle a approuvé l'ensemble du projet qui se dessinait derrière, si vous voulez.
Anne Sylvestre, qui a rythmé toute votre vie, et c'est un amour que vous avez transmis à votre fils Vincent, qui a des années plus tard repris une chanson d'Anne Sylvestre.
Oui, tout à fait. Et là, pour en terminer avec la petite anecdote, je voulais vous dire quand même que ce qui est joli, c'est que Anne est venue récemment chez nous un soir et nous a apporté le dépôt SACEM de cette chanson, Un cœur sur les bras, qui se trouve dans l'entrée, à côté précisément d'un disque d'or de Vincent, qui a baigné dans les chansons d'Anne Sylvestre quand il était enfant, qui en a été imprégné. On allait toujours à Paris voir ses spectacles. Et c'est vrai qu'il a contribué un petit peu à la popularité de cette chanson, Les gens qui doutent, qui l'aimait beaucoup. Et voilà, ça fait partie d'un cycle qui est à la fois merveilleux et puis aussi qui est aujourd'hui profondément triste, un sentiment qu'une part importante de la vie s'en est allée avec elle.
Et comment êtes-vous passé d'admirateur d'Anne Sylvestre à son ami? Ça devait être très intimidant, j'imagine.
C'était vraiment le hasard de la vie. Je vous disais qu'il n'y avait rien du groupé là-dedans. Et effectivement, c'était vraiment le hasard même de la vie. C'est-à-dire que nous sommes devenus avec son ami pianiste, Philippe Lavenet, parce que simplement, j'avais reçu un prix littéraire en même temps que lui, donné par la ville de Rouen. Et puis, c'était une façon de rencontrer Anne, bien sûr, puisqu'il était très proche. Plus tard, nous avons rencontré aussi deux amis très proches, Serge Hureau et Olivier Husnet, qui s'occupent du hall de la chanson et qui ont une petite chaumière à 10 km de chez nous et où on se retrouve tous les 31 décembre. Il y avait toujours Anne pour ces fêtes-là. Ça, c'était une chose extraordinaire dans ma vie, de pouvoir devenir proche d'Anne après qu'elle était si proche, simplement par la qualité de sa présence. Et c'est un accompagnement, enfin, c'est une chance incroyable de pouvoir aimer autant une chanteuse aussi longtemps.
Et puisque vous avez été proche, est-ce que vous savez comment elle s'y prenait pour écrire une chanson? Elle disait c'est du boulot une chanson, hein. Ça a l'air simple parce qu'elle en a écrit tellement, qu'elle racontait des histoires, parce que ses chansons ce sont des histoires avec un début, un milieu, une fin. Mais est-ce que vous savez si c'était difficile pour elle, comment elle faisait?
C'est quelqu'un qui de toute façon liait toujours la musique et les textes, comme tous les grands auteurs compositeurs, parce qu'il y a aussi une espèce de fluidité dans sa façon de chanter. Je trouve que c'est une espèce de mouvement de vague Anne Sylvestre, et avec une très belle voix aussi. Quand j'entends, elle me donne le frisson, et hier elle m'a fait un petit peu pleurer toute la journée. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de comme ça d'aisance et de fluidité dans l'écriture et dans la musique qui allait ensemble. Enfin, c'était vraiment à la fois très simple et en même temps apparemment, et comme toutes les choses qui sont simples apparemment et qui en fait sont profondément subtiles. Et dans son cas, il y avait une richesse et il y avait aussi beaucoup d'humour. Enfin, c'est vrai que bon, ça c'est une chose aussi qui n'apparaît pas.
Ah oui, il y a plein de chansons drôles. Il y a plein de chansons drôles d'Anne Sylvestre.
Il y a plein de chansons drôles. Bon, je peux en donner un exemple très rapide. C'est quand une chanson contre l'homophobie, comme Xavier, qu'un petit garçon qui berce une auto comme un nounours et tout le monde s'inquiète. Et puis elle dit, je dois pourtant vous rassurer pour Xavier, il a passé sans avenir, sans permis. Ses sentiments pour son auto sont normaux. D'autres ne peuvent pas en dire autant, bien souvent.
Cette chanson de Xavier, qui va conclure notre entretien. Merci beaucoup, Philippe Delerme, de nous avoir accordé quelques minutes. Voilà, on sent bien votre émotion et je suis vraiment très reconnaissante que vous ayez accepté de nous parler et de témoigner de votre amitié, de votre amour pour les chansons d'Anne Sylvestre. Merci beaucoup, vous étiez l'invité du 5-7.